Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Il y a près de 2000 ans, plusieurs dans l'entourage de Jésus exprimèrent leur admiration pour la beauté du temple à Jérusalem. Ses disciples vinrent à lui en particulier, et comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes que faisait l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et soudain, la conversation prit une tournure prophétique. Ils lui demandèrent: « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Les disciples demandèrent aussi à Jésus quel serait le signe de son avènement et de la fin du monde. Jésus répondit: « Prenez garde que personne ne soit séduit, que vous ne soyez séduit, car plusieurs viendront en mon nom disant « c'est moi sous-entendu, c'est moi qui suis le Christ » et le temps approche, ou disant « je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ne les suivez pas. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, même s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Très rapide. En quelque lieu que ce soit le cadavre, ou que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ou vos corps. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parlant de la génération qui allait connaître ces choses, et il semble bien que ce soit la nôtre, Christ précisa, et je cite, « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Or, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, du moins à l'époque, quand Christ a dit cela. Peut-être que maintenant il le sait, ils sont ensemble, l'un et l'autre, le Père et le Fils, mais le Père seul. Ce que nous venons de lire dans Luc 21, ce que je viens de lire dans Luc 21, versets 5 à 36, et dans Matthieu 24, pour quelques détails supplémentaires, j'ai ajouté des détails supplémentaires, j'ai mis tout cela ensemble, tout est biblique. Reportons-nous maintenant à Matthieu 24. Matthieu 24 et à partir du verset 37. Matthieu 24, à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, oh, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Oh, mon maître tarde à venir !» S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne le connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les passages que nous venons de lire sont des passages prophétiques. L'Église de Dieu enseigne depuis des décennies que le tiers de la Bible environ est prophétique. Beaucoup de prophéties s'appliquent à notre époque, au temps de la fin. Notre époque est analogue à celle de Noé, où l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Cela ne décrit-il pas notre époque, frères et sœurs? Entendez-vous la parole prophétique? Pierre y a fait allusion dans sa seconde épître. Reportons-nous à 2 Pierre chapitre 1, verset 19. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 19. De Pierre 1, 19, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été rapportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chapitre suivant, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont prêché, ou qui ont péché, pardon, ils ont peut-être prêché, mais péché surtout, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement, les anges qui ont péché, les démons, S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme des exemples aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et n'est-ce pas ce que nous voyons, nous aussi? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leurs penchants naturels, et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Avec vous, sous-entendu, les chrétiens. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme. Elle arrêta la démence du prophète. Nombre 22, versets 1 à 33. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'a dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et dans ces trois versets que je viens de citer, est décrit le péché impardonnable. Voilà déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, et nous y sommes, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, et cela pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Les prophéties bibliques annoncent l'avenir tel qu'il va se produire. Non seulement Dieu nous dit ce qui va effectivement se produire, mais aussi pourquoi cela va devoir se produire. Il a annoncé les temps difficiles que nous connaissons. Il nous a expliqué pourquoi ils doivent avoir lieu, mais aussi pourquoi le monde à venir va bientôt être instauré. Reportons-nous à Ésaïe 46 et le verset 9. Ésaïe 46 et le verset 9. Ésaïe 46, 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Vous me direz, mais moi je n'étais pas là. Oui, mais tout est écrit. Tout ce dont nous avons besoin est écrit. Souvenez-vous. Ne commettez pas les mêmes erreurs que nos ancêtres, que les gens du passé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il existe dans la parole divine plusieurs centaines de prophéties. Bien que la plupart d'entre elles concernent l'avenir, plusieurs se sont déjà accomplies à la lettre. Ces prophéties accomplies prouvent de manière convaincante que Dieu peut prédire l'avenir avec exactitude et le faire s'accomplir. Dieu avait prophétisé par la bouche de Jérémie, par exemple, que les Juifs seraient emmenés captifs à Babylone pendant 70 ans, puis que Babylone serait vaincue et les Juifs autorisés à revenir dans leur pays et rebâtir le temple. Apportons-nous à Jérémie 25, verset 11. Jérémie, chapitre 25, et le verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Tout cela se produisit comme Dieu l'avait prédit, comme il l'avait annoncé. Dieu avait prophétisé quand Babylone serait conquise, mais aussi de quelle manière elle serait conquise. Il avait même annoncé comment s'appellerait le roi perse qui la vaincrait. Ésaïe 44. Et le verset 28, Ésaïe 44:28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, du temple, qu'il soit fondé. Ésaïe vécut quelque 200 ans avant la naissance de Cyrus, bien avant que Babylone ne devienne une grande puissance, ne conquiert la Judée et emmène les Juifs captifs. Ésaïe prophétisa ensuite au chapitre 45, c'est le chapitre suivant. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Versets 1 et 2. D'après les historiens, quand Cyrus prit Babylone, il pénétra par ses doubles portes pendant la nuit et rencontra une faible résistance, précisément de la manière dont Dieu l'avait annoncé. Esdras relate le décret du roi de Perse encourageant les Juifs à retourner dans leur pays et à y rebâtir le temple. Le nom de ce roi, Cyrus, comme Dieu l'avait prophétisé. Dieu, par la bouche de plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, avait prophétisé la venue du Messie, mais aussi bien des détails à propos de sa naissance, de son ministère et de sa mort. Ces prophéties, bien trop nombreuses pour que nous les citions toutes, et faites des siècles à l'avance, se sont accomplies avec une précision remarquable. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, nous avons un ouvrage, un livre qui est merveilleux, un livre unique dans ce monde, dans l'univers, la Bible, la parole de Dieu, un livre très spécial, inspiré. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Bon, vous connaissez ce passage, surtout vous les vieux routiers, comme on dit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, ou insufflée de Dieu, c'est une autre façon de le traduire. Dans l'original, c'est littéralement insufflé de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons des gens qui croient que certaines parties de la Bible sont justes, valables, mais que d'autres, non. Ils s'en débarrassent tout simplement. Nous, dans l'Église de Dieu, nous croyons que tout ce que nous avons est inspiré et vient de Dieu. Nous ne choisissons pas ce qui nous plaît et pour nous débarrasser de ce qui ne nous plaît pas, comme certains le font. Dieu seul pouvait pousser les prophètes de l'Ancien Testament à écrire ce qu'ils ont prophétisé. Et Dieu seul pouvait s'assurer que ces paroles s'accomplissent. Voilà pourquoi les prophéties bibliques représentent la seule source digne de nous indiquer ce qui va se produire. L'humanité est coupée de Dieu. Mais Dieu va renouer les liens rompus. Quand Adam et Ève rejetèrent Dieu et décidèrent de croire Satan, Dieu les expulsa du jardin d'Éden. Non seulement ils furent coupés de leur Créateur, mais ils cessèrent aussi d'avoir accès à l'arbre de vie, ou l'arbre de la vie, symbolisant la possibilité d'hériter la vie éternelle. Depuis lors, tous leurs descendants ont vécu dans un monde retranché de son Créateur, et ont fini par mourir. La conséquence du péché, c'est la mort. Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un mélange du bien et du mal, la vérité et le mensonge, un mélange. Dieu n'aime pas le mensonge, il aime que la vérité. Là, quand on commence à aller dans la vérité et puis le mensonge et mélanger tout ça, ce que Satan fait très bien. Oh, là, nous sommes en grande difficulté. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, tu peux en être certain, tu mourras. Genèse 2:17, vous connaissez le passage. C'est ce qui s'est produit, nous le savons. Nous sommes mortels, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort, non pas la vie éternelle dans le paradis ou en enfer. Ça, ce n'est pas biblique. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, et nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains, depuis Adam et Ève. Romains 3, 23. Néanmoins, Dieu précise qu'il a un plan pour ramener l'humanité à lui et rétablir les rapports qui existaient au jardin d'Éden. Satan est le Dieu et le monarque de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce siècle. Le déroulement des événements par lesquels Dieu va détrôner Satan et le remplacer, devenant le nouveau souverain de ce monde, représente un aspect clé des prophéties sur le temps de la fin. Christ est venu sur terre pour rendre le salut des hommes possible et pour préparer le remplacement de Satan, le prince de ce monde. Christ est venu offrir sa vie afin de sauver tous les êtres humains possibles et leur épargner une mort définitive, rendant possible l'obtention de la vie éternelle. Qu'avons-nous fait pour cela? En sommes-nous dignes? Pouvons-nous par nos œuvres mériter cet avenir merveilleux que Dieu a pour nous? Romains chapitre 3, verset 24. Romains 3, 24. Romains chapitre 3 et le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Mais une foi vivante à nouveau. Il ne s'agit pas simplement de dire, ben, une fois je crois en Dieu, puis c'est tout, on ne fait rien d'autre. Hein? Il est question d'une foi vivante, une foi agissante. Romains 6, 23, deuxième partie du verset maintenant. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, il est gratuit parce que Dieu nous le donne gratuitement, ça ne veut pas dire que nous devons continuer à pécher. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut mettre tous les passages ensemble et ne pas isoler les versets comme certains le font. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22, c'est un passage du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce passage? Hébreux chapitre 9, verset 22. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs. La Bible est notre ancre. C'est sur elle que nous devons nous appuyer, pas sur des idées humaines. Et nous avons des gens qui tordent les Écritures. Hébreux chapitre 9, verset 22, « Presque tout d'après la loi est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'est la loi de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et comme il est réservé, verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois ou une fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est merveilleux. Que le plan de Dieu est merveilleux. Que c'est un plan d'amour. Le premier homme, Adam, n'a pas rejeté Satan. Jésus, en tant qu'homme, est venu comme le dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et à nouveau, souvenez-vous que âme, nefesh, en hébreu, ne signifie pas quelque chose d'immortel. Âme, le mot âme ou nefesh, c'est simplement une créature vivante. Un être à respiration. Aucune notion d'immortalité. Il devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et là, rappelez-vous de ce que nous venons de lire dans le verset précédent. Vous avez le physique, vous avez le spirituel, vous avez Adam, vous avez Christ. Il y a une comparaison entre les deux. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, elles aussi sont les terrestres, et tel est céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, et nous la portons encore pour le moment, nous sommes encore mortels pour le moment, nous avons porté, nous portons encore l'image du terrestre, nous porterons futur aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Christ a rejeté Satan, comme évoqué dans l'incident des tentations dans Matthieu 4, 1 à 11. Je dis des tentations. Intéressant, hein, parce que Christ a été tenté pendant 40 jours. Mais ce n'était pas une tentation, ça devait être terrible. Sans relâche, Satan a dû le tenter de toutes les manières. Incroyable. Alors Christ va bientôt le remplacer Satan comme souverain de la terre. C'est ce qu'indique la parole prophétique dont a parlé Pierre et à laquelle nous faisions allusion au début. Christ va revenir pour détrôner Satan en tant que dirigeant du monde et il va régner sur la terre. La transition entre l'ère présente dominée par Satan et le règne de Jésus sur la terre va être violente et difficile. Nous y arrivons. C'est ce qu'indiquent notamment les prophéties sur le temps de la fin. Christ, à son retour, va bannir Satan et ses démons pendant 1000 ans. Ils ne pourront plus influencer les humains. Apocalypse 20, versets 1 à 3, que nous sommes bénis d'avoir ces prophéties. Le plan divin, si sage, si merveilleux, nous est révélé à nous qui comprenons, à nous qui avons le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, nous ne sommes pas dignes de cette bénédiction, mais Dieu nous aime. Et il a permis que nous qui sommes si peu de choses, nous puissions comprendre ces choses. Qui suis-je? Que sommes-nous? Merveilleux. Apocalypse 20, verset 1 à 3, Apocalypse 20, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. C'est un peu ironique, un ange simplement. Dieu n'a pas besoin de descendre, c'est un ange qui vient pour emprisonner Satan et les démons. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Bon, ben, c'est symbolique, ça, évidemment. Hein, ça, hein, scellé et tout ça, Satan n'est pas limité par le physique. Hein, donc, il pourra plus sortir du trou. Bon, ben, ça veut dire simplement qu'il n'aura plus aucun pouvoir. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dieu est juste. Nous appelons cette période le millénium, mot qui signifie 1000 ans. Ceux qui survivront au conflit du temps de la fin et seront encore en vie quand débutera le millénium, jouiront du gouvernement divin. Christ régnant sur la terre. Et ils ne seront plus coupés de Dieu ni de l'arbre de la vie. L'Esprit du Tout-Puissant sera disponible pour tous. Quelle époque merveilleuse arrive à grands pas pour nous. Apocalypse chapitre 2 et le verset 7. Apocalypse 2, 7. Que cette parole prophétique est merveilleuse. Que nous sommes bénis de comprendre ces choses. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, il s'agit de vous et moi, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est symbolique, l'arbre de vie. Si nous l'avons, arbre de vie, nous avons la vie éternelle. Apocalypse 22, 14 maintenant, toujours dans Apocalypse, chapitre 22 et le verset 14. Apocalypse 22 et le verset 14. Et notez bien ce que je vais dire pour ce verset. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dans la ville. Mauvaise traduction. Mauvaise traduction. Dans l'original, il est écrit « Heureux ceux qui observent ses commandements ». Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans la version Osterwald, je pense, qui est bien traduite. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Oh, que ça va être merveilleux. Mais nous avons déjà l'Esprit de Dieu en nous. Nous qui sommes convertis, les prémices ont déjà l'Esprit de Dieu. Nous avons déjà commencé à penser comme Dieu. Que c'est merveilleux. Mais à ce moment-là, quand Dieu va revenir, l'humanité entière va avoir la possibilité d'avoir cet esprit, de cette mentalité, cette pensée divine. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous verrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Les prémices de Dieu seront changées en êtres spirituels et seconderont Christ pour gouverner le monde. Pour les agriculteurs, les prémices représentent les premiers fruits. Les premiers fruits des récoltes. Dans l'Écriture, ce terme est employé pour décrire ceux qui, au retour de Christ, seront les premiers à recevoir l'immortalité et une place dans le royaume de Dieu. Il s'agit de la première résurrection. Depuis l'époque d'Adam et Ève, l'humanité dans son ensemble est coupée de Dieu. Mais notre Créateur a choisi quelques personnes dans l'histoire comme prémices de son royaume. Que nous sommes bénis. Que nous sommes bénis. Jacques chapitre 1, verset 16. Jacques chapitre 1 et le verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures spirituelles sous-entendues, évidemment, dans ce contexte. Apocalypse 14, maintenant, Apocalypse chapitre 14 et le verset 1. Apocalypse 14 et le verset 1. Apocalypse 14, 1, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. C'est symbolique. Pas nécessairement qu'il y aurait une écriture sur le front, mais rappelez-vous que le front, c'est le symbole des pensées. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ici, il est question de symbolisme ici. Ils sont vierges spirituellement. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, sous-entendu les fausses églises. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé point de mensonge, car ils sont irréprochables. Est-ce que cela nous décrit, frères et sœurs? Sommes-nous irréprochables? Il a appelé ces prémices à renoncer aux voies de ce monde. Elles se sont repenties de leurs péchés, se sont mises à obéir et ont reçu son Saint-Esprit, gage de leur héritage qui est la vie éternelle. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1 et le verset 13, ou les versets 13 et 14, Éphésiens chapitre 1, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Un gage ou un acompte, si vous voulez. Au retour de Christ, ces prémices, ceux qui seront demeurés fidèles à Christ jusqu'à sa mort, et ceux qui seront encore en vie quand il reviendra, seront ressuscités, ou changés en êtres spirituels immortels. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 50. Un Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Au premier siècle, les apôtres pensaient que, le retour de Christ était proche. Mais, il fallait encore attendre longtemps. Ils sont tous morts et ça a duré bien plus longtemps qu'ils l'avaient prévu. Mais il a dit, nous ne mourrons pas tous parce qu'ils se mettaient à notre place, à nous qui lisons ces lignes à la fin des temps. Nous ne mourrons pas tous, eux sont morts, mais nous, nous serons changés si nous sommes encore vivants. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changer, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il doit y avoir un changement. Ceux qui feront partie de cette résurrection seconderont Christ dans l'administration du gouvernement de Dieu sur la terre. Apocalypse chapitre 1 et le verset 5. À celui qui nous aime, que c'est beau ça, à celui qui nous aime. Quelle manière d'introduire ce passage. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que j'ai hâte de rencontrer cet être merveilleux, Christ, notre Sauveur. Que j'ai hâte de rencontrer notre Père Céleste. J'espère que vous aussi. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5 et le verset 8. Nous étions à l'Apocalypse à nouveau. Maintenant, chapitre 5 et le verset 8. Quand il eut pris le livre, il est question de Christ, de l'agneau de Dieu, comme l'indiquent les versets précédents. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quel être merveilleux nous avons, ce Christ, le Fils de Dieu, la parole, le Verbe. Quelquefois, on utilise, certaines versions utilisent ce qualificatif, la parole de Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Sur la terre. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Et je vis des trônes, et fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ces âmes sont mortelles, mais elles reviennent à la vie. Et là, à la vie éternelle, ils reviennent, ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Rappelez-vous que le mot âme a été mal traduit, souvent mal traduit. Le mot âme ou nefesh dans la Bible simplement signifie créature vivante. Il n'est pas question d'immortalité, il n'y a aucune notion d'immortalité dans le mot âme, du moins dans la Bible. Âme, évidemment, c'est une traduction, mais nous devons nous rapporter aux originaux, n'est-ce pas? Alors Dieu va offrir à tous la possibilité d'entrer dans sa famille spirituelle éternelle. Que c'est merveilleux! Quel Dieu d'amour nous avons! Qu'adviendra-t-il en effet de l'immense majorité des êtres humains ayant vécu au fil des siècles? Sont-ils perdus à jamais, comme on voudrait nous le faire croire? Aucunement! Dieu a prévu de leur donner la même occasion qu'à ceux qui vivront pendant le millénium. L'occasion de se repentir, de se soumettre à lui, de recevoir son Saint-Esprit et d'être changé en esprit immortel comme d'autres avant eux. Comment cela? Après le millénium, une autre résurrection des morts aura lieu, une seconde résurrection. Alors, Apocalypse chapitre 20, verset 5, maintenant Apocalypse 20, 5. Apocalypse 20, 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et cette phrase doit être comprise comme une parenthèse. Ensuite est reprise l'idée énoncée au verset 4, ceux qui règnent avec Christ pendant 1000 ans font partie de la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus moyen d'attaquer les saints. Dieu sera du bon côté et du côté de son peuple. Ils montèrent à la surface de la terre, ils invertirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où avait été jetée la bête et le faux prophète serait une meilleure traduction. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La première partie de la phrase, au verset 5, est donc une parenthèse, ne l'oublions pas. Lors de cette seconde résurrection, revivront tous les êtres humains ayant vécu et étant morts depuis le début de l'humanité, étant mort avant le retour de Christ. Quand on comprend le plan magistral que Dieu suit, on réalise que les prophéties ne constituent pas un sujet à part dans le salut de l'humanité. En fait, ces dernières s'appliquent entièrement au salut des êtres humains, ces prophéties. Toutes les prophéties sur le temps de la fin décrivent le plan de Dieu et le plan qu'il suit pour détrôner Satan, pour instaurer le règne de Christ sur terre et offrir le salut, la vie éternelle, à tous les êtres humains. Toutes ces prophéties pointent vers la bonne nouvelle, l'évangile, du plan magistral que Dieu accomplit en l'homme. C'est cela, la vue d'ensemble. Gardons à l'esprit cette parole prophétique. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.